Hélène Roussel pour l'info. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. Vaccination obligatoire pour les soignants, passe sanitaire élargie. Projet de loi, on vient de l'apprendre, devant le Conseil d'État dès demain, sur la table du Conseil des ministres lundi prochain. Le Delta fait bouger toutes les lignes. Emmanuel Macron a donc tranché. On en saura plus d'ici une heure. Allocution télé du président. Vaccin obligatoire, extension du pass sanitaire. On en parle aussi au téléphone. Sonne ce soir, Fabienne.
Ben oui, vous l'avez entendu. Donc, vaccination des soignants, pass sanitaire, etc. Vous nous direz ce que vous en pensez. On verra ensemble et avec nos invités, bien sûr, si ça suffira à faire fuir le variant Delta, changer quelques paradigmes. On verra ça ensemble.
Et puis aussi Cuba, lendemain de manifestations historiques contre le régime. Les États-Unis dénoncent le manque de liberté dans le pays. Le président cubain renvoie sur les sanctions économiques américaines. Deux députés de la Cour de justice de la République, pas d'accord avec la façon dont est traité le dossier Dupond-Moretti. Ils claquent la porte. L'Euro, le foot champion, les Italiens. Une journée de rêve à Rome et puis une montée des marches bien glamour à Cannes avec l'équipe du réalisateur Wes Anderson.
France Inter.
Majoritaire depuis ce week-end en France, 60% plus contagieux que les autres, des cas qui ont doublé en une semaine. Si rien n'est fait, ce sera 20 000 par jour début août, préviennent les épidémiologistes. Le variant Delta est l'ombre d'un été un peu beaucoup gâché. Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de la PHP, donne le ton.
Je pense que si nous sommes nombreux dans une pièce qui n'est pas bien aérée, je pense que le masque chirurgical ne suffira pas. Il faut donc à nouveau que l'on fasse attention à être un peu distant les uns des autres. Si on est dehors, il faut quand même faire attention à pas être trop proche les uns des autres. Donc ces mesures qu'on a beaucoup entendues ces derniers mois et qu'on a eu tendance, et c'est normal, hein, à un peu oublier, il faut les reprendre. Et vraiment, j'insiste beaucoup, hein, à l'intérieur, ne soyez pas trop nombreux, pas trop proches les uns des autres et ne pensez pas que le seul masque suffit à vous protéger. Ce variant est très transmissible, il est possible qu'il passe malgré le masque.
Garder ses distances, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit depuis la réouverture des terrasses ou des théâtres. Emmanuel Macron au pied de la quatrième vague et sur une ligne de crête. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Hélène.
Le président va parler d'ici une petite heure à la télévision, à l'allocution retransmise sur France Inter. Et ça se précise, hein, il va falloir sacrifier à la liberté individuelle pour tenter de sauver une saison touristique qui commence à peine.
Oui, c'est la nouvelle équation qu'il doit résoudre. Et comme à chaque fois avec ce virus, il s'agit de s'adapter. C'est, souviens-toi, l'été dernier, le retour plaisante un cadre de la majorité, référence à ce mois de juillet 2020, placé, souvenez-vous, sous le signe du monde d'après, de la relance, avec un nouveau gouvernement, finalement rattrapé par la crise sanitaire. La différence, c'est le vaccin. Course de vitesse pour ne pas gâcher la rentrée, en un rendant les injections obligatoires. C'est dans les tuyaux, oui, pour les soignants. Le Conseil d'État sera saisi dès demain d'un projet de loi. Adoption au Conseil des ministres le 19 juillet, puis vote dans la foulée. On pousse le calendrier parlementaire jusqu'au 25 juillet s'il le faut. Gros point d'interrogation sur le pass sanitaire, élargi aux établissements recevant du public, mais jusqu'à quel point, quelle jauge, l'obligation vaccinale pour tous, réclamée notamment par François Bayrou. Là, c'est pas une option soutenue au sommet de l'État, où l'on fait encore le pari de la responsabilisation individuelle. Gros chapitre sanitaire donc, parce que c'est le moment ou jamais, me disait un conseiller, de marquer les esprits sur le sujet numéro 1 qui préoccupe les Français. L'été sera-t-il normal ou non? À l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron n'a pas encore enregistré son allocution, mais il gardera du temps pour parler d'autres sujets, la relance, les retraites, avec un chantier sans doute renvoyé à l'après-présidentiel. Dans son camp, beaucoup poussent pour d'autres réformes positives, dépendance, garantie jeune universelle, solidarité intergénérationnelle, mais est-ce encore le moment de dépenser? C'est là qu'Emmanuel Macron doit résoudre ce soir une autre équation politique et interne à sa famille politique. Il reçoit à l'Élysée les députés de la majorité, juste après cette intervention à la télé.
À la télévision, donc à 20h, et sur France Inter, bien sûr. Yael Gauze, chef du service politique d'Inter. En attendant, entre le Delta qui affole les compteurs et ses menaces de nouvelles mesures de restriction, il y a eu comme un sursaut ce week-end. 212 000 personnes ont pris rendez-vous pour une première injection selon la plateforme Doctolib. Un record en un mois, un bond de 40% par rapport au week-end précédent. Et ce n'est pas parce qu'on a été malade du Covid que cette immunité-là est éternelle et qu'on peut se passer de la piqûre. Les biologistes sont chargés de tracer ces patients et de les sensibiliser. François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes, répond à Véronique Julia.
On a été sollicité par la cellule test du gouvernement pour faire un rappel à tous nos patients. Et parmi ces patients, tous ceux qui ont eu un test positif entre février 2020 et jusqu'il y a 3 mois, c'est-à-dire on est en juillet et donc avant le mois d'avril, ils doivent se faire administrer une dose pour se protéger. Ils vont recevoir un SMS ou un mail, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Naturellement, dans nos laboratoires, tous nos médecins biologistes et nos infirmières savent vacciner. Vous connaissez votre biologiste, vous avez confiance en lui et vous pouvez être sensible à sa demande de vaccination. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent finalement, bah, je l'ai eu, je dois avoir certainement des anticorps et ça doit suffire, qui n'ont pas aujourd'hui forcément l'intention de se faire vacciner. C'est un public à conquérir, on est sur 5 millions de personnes quand même.
Et chacun sa façon de réagir quand les boîtes de nuit referment en Catalogne ou aux Pays-Bas. La Grèce vient ce soir de rendre obligatoire le vaccin pour les soignants. La Russie, il faut désormais le pass sanitaire pour manger au restaurant. Eh bien, l'Angleterre, elle fait le pari inverse, levée des dernières restrictions confirmées aujourd'hui pour le 19 juillet. Le Premier ministre table sur le vaccin et la responsabilité individuelle. Le masque n'est plus une option en Indonésie, à tel point que plusieurs touristes étrangers qui ne respectaient pas la consigne ont été expulsés de Bali. Et puis en Israël, face aux variants, l'État lance la troisième dose pour les patients les plus fragiles. En bref, encore, le Covid aura fait plonger des centaines de milliers de personnes dans la misère. Près de 800 millions ne mangent pas à leur faim dans le monde l'an dernier. 15 ans que la situation ne s'était pas à ce point aggravée. Rapport alarmant de l'agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation publié aujourd'hui.
Le Covid, les conflits armés aussi. Au Mali, 3 millions d'élèves ont perdu le chemin de l'école.
Certains n'ont plus d'école, elle est fermée. D'autres ont dû fuir pour échapper aux violences dans le nord du pays. Et comme un refuge, voici la région de Ségou au sud qui non seulement accueille de nombreuses familles, mais propose avec l'UNICEF des radios à énergie solaire. La radio contre le décrochage scolaire. C'est un reportage à Bamako signé Manon Laplace.
Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre.
8 jeunes filles se sont rassemblées autour d'Aïssata, à l'ombre d'un grand manguier et cahier à la main. Elles concentrent leur regard sur le petit boîtier noir placé au centre. Aujourd'hui, à la radio, c'est le son de géométrie.
Angle droit, c'est 90. Angle opti, c'est 120.
Ali Konaté est le directeur de l'établissement qui l'accueille aujourd'hui à Ségou.
Ces enfants-là sont suivis de près avec leurs parents. Il y a des leçons qui sont préparées à distance. On a constaté que leur résultat s'est amélioré.
Jusqu'à 3 millions d'enfants seraient déscolarisés aujourd'hui au Mali. Un décrochage scolaire dont les conséquences peuvent aller du mariage précoce pour les filles à l'enrôlement auprès des groupes armés pour les garçons. Sylvie Fouet, représentante de l'UNICEF au Mali.
Forcément, ils ne sont pas équipés avec les options pour avoir un travail peut-être rémunéré, bien rémunéré. Donc, ils vont aller dans l'alternatif. Donc, c'est vraiment d'essayer de pas perdre ces opportunités, de trouver un métier et un travail qui leur permettent vraiment de se développer, de grandir dans l'économie au Mali.
Selon l'UNICEF, plus de 1200 écoles ont été fermées à travers le pays. À Bamako, Manon Laplace, France Inter.
Des manifestations historiques contre le régime à Cuba hier et aujourd'hui, chacun sa lecture. Le président américain Joe Biden, dans un communiqué, appelle les communistes au pouvoir à entendre le peuple et son besoin de liberté. Quelques minutes plus tôt, à la télévision, le dirigeant cubain accuse lui directement les États-Unis et leurs sanctions. Le président Diaz-Canel dénonce une politique d'asphyxie économique faite pour provoquer des troubles sociaux ou comment étouffer le réveil du peuple cubain. Correspondance depuis la Havane, Domiti Piron.
Une journée historique de défense de la révolution. Voilà l'analyse du président Miguel Díaz-Canel des événements d'hier, alors que les rues cubaines étaient envahies par des manifestants hostiles au gouvernement venus crier leur ras-le-bol et leur désarroi face à la crise généralisée. Le gouvernement se focalise sur ceux qui ont défendu la révolution et justifie également les manquements. Le président Miguel Díaz-Canel a avoué qu'il y avait certaines nécessités en expliquant d'abord les causes des coupures de courant qui ont provoqué la première manifestation. Et s'il y a des coupures, c'est la faute à l'embargo américain.
Et ça n'est pas pour vous déranger, mon cher peuple, mais ceux qui nous bloquent s'en servent comme argument pour nous provoquer et provoquer des troubles sociaux. Ils encouragent des manifestations alors que nous pouvons discuter à travers nos voies de communication tout en respectant l'ordre du pays.
L'embargo américain justifie donc tout et les milliers de manifestants de ce dimanche ont parfois été comparés à des mercenaires. Le gouvernement dénonce des manipulations.
Qui est dérangé par le régime, le supposé régime cubain? Qui est dérangé par notre système politique et notre manière de faire? Ce n'est pas la majorité du peuple que cela dérange, parce que la majorité participe à ce système.
Pourtant, ce dimanche, la majorité des manifestants clamaient bel et bien « Abat la dictature ». Dominique Piron, La Havane, RFI pour France Inter.
Et ce soir, l'Union européenne demande à son tour aux autorités cubaines d'écouter le mécontentement des manifestants. Quand la Russie et le Mexique ont déjà mis en garde la communauté internationale contre l'ingérence étrangère. Un impôt mondial de 15% sur les profits des plus grandes multinationales, d'accord, mais une taxe GAFA, ça va trop loin pour Washington, qui dénonce un projet discriminatoire pour ses Amazon, Google et autres Facebook. Bruxelles s'incline et accepte de geler son projet qui devait en partie financer le plan de relance au sein de l'Union. Un semblant de justice, un contre-pouvoir illégitime. Deux députés démissionnent haut et fort de la Cour de justice de la République, la CJR, pour dénoncer la façon dont est traité le dossier Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux, soupçonné de prise illégale d'intérêt, prochainement convoqué en vue d'une mise en examen. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Une députée En Marche, et c'est plus inattendu, un député LR accuse certains magistrats d'en vouloir au ministre, ancien ténor du barreau, en réalité depuis le début de son mandat.
Ce n'est pas un acte politique, c'est un coup de gueule contre la dérive institutionnelle, explique d'emblée Antoine Savigna, avocat, député LR et juge suppléant à la Cour de justice de la République. Car pour lui, en effet, c'est bien une vendetta que mènent certains magistrats.
Tout commence par une tribune signée par les deux plus hauts magistrats de France, considérant qu'il y a dans le comportement du garde des Sceaux des éléments qualifiables de conflit d'intérêts dont il faut alerter. Quelques jours après, les syndicats déposent une plainte et le procureur général co-signataire de cette tribune, évidemment, estime la plainte suffisamment fondée pour ouvrir une procédure à l'égard du garde des Sceaux.
C'est comme si vous étiez suspecté d'un délit et que le président du tribunal écrivait avant le procès que vous étiez coupable, poursuit Antoine Savigna, qui remet en cause aujourd'hui l'existence même de la CJR.
On voit bien que ce type de procédure est de nature à déstabiliser le processus politique, que les membres de l'exécutif aient à répondre de leurs actes, ça me paraît évident. On peut se poser la question de ce qu'une procédure puisse être engagée pendant qu'ils sont en fonction.
La CJR régulièrement sous le feu des critiques, taxée par les uns de justice d'exception, par d'autres de bras armés des magistrats, mais qui résiste jusque-là aux assauts. Ni François Hollande ni Emmanuel Macron n'ont réussi à la supprimer.
Élodie Forêt, parrainage validé, primaire engagée. En septembre, 4 candidats d'Europe Écologie Les Verts à départager pour la présidentielle, la députée Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble, Éric Piolle, ou encore l'ancienne numéro 2 du parti, Sandrine Rousseau. Rien de tranché officiellement, en revanche pour la maire de Paris, ira-t-elle ou pas à la présidentielle comme un air de campagne en attendant, car voici Anne Hidalgo loin de la capitale, à Villeurbanne, près de Lyon, entourée d'élus socialistes, avec ce qui pourrait aussi avoir l'odeur d'un slogan. Elle veut, dit-elle, un projet national pour faire bouger le pays. Mathilde Imbertie l'a suivi pour Inter.
Chère Anne, nous comptons sur toi pour nous mener à cette victoire et tu peux compter sur nous.
Toute une journée de travail sérieuse pour Anne Hidalgo et ses équipes et puis comme un air de meeting sur la fin d'après-midi. La maire de Paris est lancée.
Je suis une fille d'immigrés, je suis française, je suis de gauche, je suis écologiste, je suis socialiste, je suis laïque, je suis féministe. Je suis mon histoire. Je veux m'engager pour redonner du sens à cette promesse républicaine. Nous devons redonner confiance. Oui, changer la vie, c'est le moment, mes chers amis.
Sur scène, les maires de la génération Cadra, de Nantes, Montpellier, Nancy, ceux qui n'ont pas lâché le PS en 2017. Ils parlent revalorisation des salaires, minimum jeunesse, d'écologie aussi, sans la décroissance. Nicolas Maillet-Rossignol, maire de Rouen.
Et donc il y a une troisième voie qu'on essaye de porter, sans référence à Tony Blair, qui est l'écologie des solutions, des propositions. C'est comment, à travers l'enjeu écologique, on en fait bien sûr que c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité d'emploi.
Elle a une équipe, un début de programme, l'envie. La primaire est inutile, maintient Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat.
Si nous nous mettons d'accord sur la personnalité d'Anne Hidalgo, moi je préfère être tout de suite sur le terrain pour aller convaincre les Français.
La suite, une déclaration officielle prévisible à l'automne, une fois que le congrès du Parti Socialiste se sera tenu ici même, à Villeurbanne, Mathilde Imbertie, France Inter.
Les résultats du brevet, 88% de réussite, soit 2,4 points de moins que l'an dernier, mais cette année, toutes les épreuves ont eu lieu normalement.
La fête à Rome, après la victoire des Italiens à l'Euro de foot hier soir.
Ils ramènent la coupe à la maison, 53 ans que les Italiens attendaient ça et les joueurs tutoient les étoiles, y compris au plus haut sommet de l'État. Les voici qui enchaînent les rendez-vous politiques depuis leur retour dans la capitale. Rome, reportage de Bruce de Guelzin.
Ils sont arrivés en avance au Quirinal, gli Azzurri, par respect pour le président de la République qui avait assisté hier soir à leur sacre et alors que l'hymne italien résonnait dans les jardins. Sergio Mattarella a reçu un maillot de numéro 10 à son nom et a félicité la squadra azzurra.
Zazour.
Non avete cercato soltanto di vincere.
Vous n'avez pas seulement cherché à gagner, vous avez gagné en jouant magnifiquement bien. Il y avait une harmonie entre vous et dans votre jeu. C'est une valeur extraordinaire aujourd'hui, la nature, le sens même du sport. Bravo à tous et bravo à Roberto Mancini pour la confiance qu'il a toujours montré en guidant cette équipe nationale.
Les tifosi n'ont pas pu assister à la cérémonie dans les jardins du Quirinal et ont tenté d'apercevoir leur héros, mais derrière les barrières des forces de l'ordre. Le capitaine de l'équipe, Chiellini, leur a dédié la victoire. Expliquer ce qui avait fait la différence.
C'est seulement en jouant avec un esprit d'équipe que l'on peut obtenir un résultat aussi prestigieux. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'on a marqué un but de plus que nos adversaires, mais parce que ce but, nous l'avons marqué en partageant un des sentiments les plus beaux, l'amitié.
Les tifosi ont ensuite suivi les Azzurri au siège du gouvernement, mais là encore retenu derrière des barrières, Covid oblige, il n'y aura pas non plus de parade dans la ville. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Ils avaient les pieds en éventail aujourd'hui. Repos en Andorre pour le Tour de France avant le dernier coup de collier sur les cimes des Pyrénées et l'arrivée dimanche J-6 sur les Champs-Élysées. Des coureurs sur les rotules après deux semaines particulièrement intenses et c'est souvent la dernière ligne droite la plus dure. Fanny Le Chevestrier.
Plus que 822 km à parcourir, c'est le leitmotiv du jour avec des coureurs déjà bien fatigués et où la lassitude s'entend jusque dans leur voix comme celle de Julien Alaphilippe.
On reste plus beaucoup d'énergie. C'est vrai que ça a été deux semaines assez éprouvantes quand même. Impatient que le Tour se termine.
Jamais depuis 2012, il n'y avait eu autant d'abandon sur la route du Tour. Jamais non plus depuis 2000, l'écart n'avait été aussi important entre le maillot jaune et son dauphin. Plus de 5 minutes. La dernière semaine risque donc d'être longue, surtout que Tadej Pogacar ne prend même pas soin d'entretenir le suspense.
Je me sens de plus en plus conforté. Après, vous savez, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, hein, mais je suis vraiment confiant avant d'aborder la dernière semaine.
Alors on plie bagage tout de suite. Pour Guillaume Martin, premier français au général, ce serait oublier un peu vite les deux premières semaines de course justement.
En troisième semaine de tour, il n'y a plus trop d'état d'âme psychologique. On fait vraiment avec les tripes, avec ce qu'on a. Et ce tour est fou et j'espère qu'il va le rester. Et en tout cas, il y a encore un terrain pour partir à l'offensive.
Et ce, dès demain pour la deuxième étape dans les Pyrénées, parfaite pour une belle échappée et du spectacle jusqu'au bout.
Fanny Le Chevestrier avec le masque d'ailleurs qui sera obligatoire pour le public du Tour de France en Haute-Garonne demain et mercredi. Enfin, on déroule le tapis rouge. Il y a de quoi ce soir au Festival de Cannes avec sans doute l'un des films les plus attendus de la croisette. Bonsoir Yann Gallick.
Bonsoir.
C'est le dernier film de Wes Anderson avec une paillette de stars sur les marches il y a quelques minutes à peine.
En effet, l'équipe du film est arrivée en bus jusqu'au pied du tapis rouge du Palais des Festivals. Une arrivée originale, sous des applaudissements nourris, Wes Anderson entouré de ses actrices et de ses acteurs. Il y a bien sûr, vous l'avez dit, les fidèles que l'on voit régulièrement dans les films du réalisateur américain, Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson et Adrien Brody, avec aussi Benicio Del Toro et l'acteur Timothée Chalamet qui a suscité, je ne vous le cacherai pas mal d'émoi chez les jeunes spectatrices amassées derrière les barrières. Pour son nouveau long métrage, Wes Anderson a réuni un casting prestigieux, très international, mais aussi très français, puisque le film a été tourné à Angoulême, avec notamment Mathieu Amalric, Lina Koudry et Hippolyte Girardot, présents sur le tapis rouge ce soir. The French Dispatch raconte la vie d'un journal et le quotidien de ces journalistes, avec donc Bill Murray dans le rôle du rédacteur en chef. La grande absente de cette soirée, c'est Léa Seydoux, qui interprète une gardienne de prison dans ce film. L'actrice n'a pas pu monter les marches car elle a été testée positive au Covid.
The French Dispatch, donc le très attendu nouveau film de Wes Anderson en projection ce soir et en compétition à Cannes, on l'a compris, avec un casting poids lourd. Et c'était Yann Gallick tout en haut des marches du Palais des Festivals pour France Inter.
Voilà, et vous, c'était Hélène Roussel pour le journal et même que vous reviendrez demain.
Ah, mais avec plaisir.
Merci beaucoup. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On verra si les leviers qui sont en train d'être activés par Emmanuel Macron sont de nature à nous aider à gagner la bataille contre le variant Delta. À vos questions et pendant ce temps, on jette un œil sur le ciel.
La météo. Avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Calac, décidément, c'est pas fini, encore des pluies orageuses.
Oui, elle s'intensifie ce soir et cette nuit dans l'Est, en particulier du Jura à l'Alsace en vigilance orange, donc prudence. Demain, sur la plupart des régions, ce sera encombré avec des averses. Les pluies seront marquées des Alpes au nord-est, mais également du nord de la Seine et de la Normandie vers le nord de la Garonne. Certains s'en sortiront mieux tout de même. La Bretagne retrouvera un temps sec avec de belles éclaircies. Retour d'éclaircies aussi sur le littoral de la Manche l'après-midi. Et puis en Méditerranée, vous aurez du soleil mais du vent fort.
Et ouais, et toujours de la fraîcheur aussi.
17 degrés seulement à Tarbes demain, 18 à Nancy, 20 à Lille, Caen, Brest, La Rochelle ou Toulouse, 21 à Paris et à Lyon, encore 26 degrés à Marseille, 31 à Bastia. Alors un petit peu d'espoir pour les vacanciers et pour les autres d'ailleurs. L'amélioration va arriver à partir de jeudi par l'ouest. Et puis pour le week-end prochain, on va avoir un temps plus estival avec du soleil et des températures en hausse.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.